C'est-à-dire qu'il y a du mouvement, mais de toute façon, ça va vers un certain état. Et c'est ça, en fait, l'attracteur qui nous conduit vers un certain état de, phase, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est par exemple donc l'état ponctuel de dimension 0. Bon, un autre exemple pour les attracteurs de dimension 1, c'est plutôt une boucle, c'est-à-dire un état où l'attracteur est revisité de façon périodique. C'est le cas des pendules, on fait osciller. Donc un pendule qui oscille sans friction aura une trajectoire elliptique dans l'espace de phase. Les attracteurs, donc dits complexes, contraignent le système en une région spécifique de l'espace des états, mais les trajectoires n'en sont pas cycliques pour autant. C'est-à-dire qu'il y a de grandes fluctuations dans le développement dans l'évolution du système. Par exemple, on peut penser à la Terre, au système Terre et à toute la question de la prévision en météorologie. On a beaucoup de mal à prédire la météo. On peut le faire quelques jours avant parce qu'en fait, il y a des tellement grandes fluctuations, vu que c'est un système complexe, qu'on ne peut pas prédire. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte. Enfin, si j'ai bien compris. Moi, je ne suis pas scientifique. C'est-à-dire que si les trajectoires individuelles semblent hasardeuses, la prise en compte donc, est sous-optimale, on va dire, avec des défaillances, du désordre, etc. La prise en compte de toutes les trajectoires, globalement, donc à une échelle globale, laisse cependant voir une grande régularité à l'œuvre, et donc le système se structure une fois qu'il entre dans l'attracteur. Ensuite, donc, je vais aborder la notion de bifurcation d'un système, qui peut nous permettre de comprendre cette idée d'instabilité, en fait, pour comprendre la Terre comme système complexe, et donc sous-optimale. Lorsqu'une instabilité de la structure d'un système mène à un changement dans sa forme dynamique, on voit qu'un petit changement dans un des paramètres peut avoir un énorme changement dans l'organisation du système. Donc un tout petit paramètre qui se modifie peut tout bouleverser. Le seuil où la bifurcation, donc le mot de bifurcation, a lieu, s'appelle le tipping point, c'est le point de basculement. La première utilisation de tout ça a été faite par Edward Lorenz, qui a travaillé sur le changement climatique. Donc par exemple dans sa conférence de 1965 qui s'appelle « Cause du changement climatique ». La conception du climat d'Edward Lorenz montre la Terre comme un système complexe, équilibré de manière précaire. Système complexe, équilibré de manière précaire, le système montre un potentiel dangereux de changement climatique de manière intrinsèque ou au travers de l'intervention technologique et plus vite que n'importe qui le suppose. Donc on voit bien ici l'idée de la Terre comme système sous-optimal, finalement, me semble-t-il. Et c'est 40 ans plus tard que s'impose vraiment cette idée de seuil critique en climatologie. Donc on peut penser au climatologue James Hansen, qui est dit en 2005 dans un livre « Nous sommes sur le précipice des seuils critiques du système climatique, au-delà desquels il n'y a pas de rédemption ». En 2007, les spécialistes de la théorie Gaïa, qui a fait son chemin depuis Lovelock en 70, appelle à une redéfinition des politiques climatiques autour de cette notion de seuil critique. L'idée de basculement est restée peu longtemps cantonnée à la climatologie. Le géologue Anthony Barnowski l'applique en 2012 à la biosphère. C'est-à-dire que l'effondrement brutal d'un écosystème local est un phénomène bien étudié et observé, mais ce que Barnowski et ses collègues décrivent, c'est qu'il est possible que l'écosystème global puisse s'effondrer de la même manière, comme cela s'est déjà produit par le passé. Selon lui, avec l'Anthropocène, un changement dans le fonctionnement de la biosphère serait abrupt et irréversible. Pour comprendre tout ça, on peut résumer ces notions systémiques au sein d'un paysage adaptatif. Alors, j'ai pas de diaporama, malheureusement, mais donc le paysage adaptatif, c'est une représentation, c'est très formel, et d'ailleurs, ça vient de la biologie de l'évolution, me semble-t-il. Et donc, c'est l'idée, on peut se représenter comme dans les jeux vidéo anciens, en une dimension, comme dans Mario, quoi, un parcours comme ça, donc avec une vallée, une montagne, un sommet, etc. Et on fait rouler une bille le long de ce paysage adaptatif. La position de la bille représente l'état actuel du système. Le paysage représente l'ensemble des états possibles où peut aller la bille, finalement. Donc elle peut aller sur un sommet tout en haut, dans une vallée. Elle peut, si on lui donne un point, si on lui donne de l'inflexion, monter une colline pour redescendre vers un point d'équilibre. La bille redescendra toujours vers un point d'équilibre. Quand on dit par exemple que la bille est au fond d'une vallée, on est dans un équilibre stable du système, elle ne bouge pas. Mais si on perturbe la bille, elle peut grimper le long d'une petite pente vers un nouveau point qui l'éloigne de l'équilibre, mais les mécanismes de régulation, des boucles de rétroaction négative, vont bientôt la ramener vers l'équilibre au fond de la vallée, parce qu'il n'y a pas eu assez d'impulsion pour la faire passer à un autre état d'équilibre. Mais on peut aussi, donc après quelques oscillations, là, tout retombe dans l'ordre. Donc là, l'équilibre est conservé. Malgré les désordres et les fluctuations, l'équilibre revient. Donc dans ce cas-là, là, on peut vraiment imaginer que la Terre est capable de s'autoréguler et de revenir à l'état normal, normal entre guillemets. Mais si on donne assez d'impulsions cependant, donc dans les systèmes complexes, la bille peut s'approcher et dépasser un sommet, donc le sommet entendu comme point critique, et après quelques fortes oscillations, trouver un nouveau point d'équilibre. C'est-à-dire que, par exemple, si je donne beaucoup d'impulsions à ma bille qui était au fond de la vallée, elle peut passer sur le sommet et se retrouver hop, dans une autre vallée, mais qui est un peu plus haut, qui est entre ce sommet et un autre sommet, et qui, je suis passée d'un point A à un point B qui était là. Et là, les conditions vont être tout à fait différentes, mais c'est un nouveau point d'équilibre. Donc on est passé par une forme de désordre, de modification, de perturbation du système, mais de toute façon, le système va aller vers un autre ordre. Et donc le système est passé par une phase très dynamique, et l'équilibre nouveau peut se révéler très différent de l'ancien, comme j'ai dit. Donc on a un système qui va... Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Et quand on dit qu'un système va d'un équilibre A, qui est par exemple la vallée, à un système B, qui est un sommet, on dit qu'il érode sa résilience. Donc c'est assez intéressant pour penser par rapport à la sous-optimalité, puisqu'il y a toute la question de la résilience. Donc on est passé d'une grande stabilité à une grande instabilité. Voilà. Ainsi, les notions systémiques permettent de réviser et de contextualiser une notion écologique très ancrée concernant la nature, qui est l'idée d'une existence d'un équilibre de la nature. C'est l'idée que la nature est forte et qu'après toute perturbation, elle finira toujours par retrouver un équilibre. Mais bon, ce sera un équilibre différent si la perturbation est trop forte. En termes systémiques, l'équilibre dynamique de la nature existe bel et bien et se présente sous la forme de rétroaction négative. Mais son pouvoir est loin d'être infini. Et donc, très rapidement, je voudrais passer à un troisième temps. Bon, j'ai appelé ça « Quand l'équilibre vacille, la question des limites planétaires ». Alors, donc on voit bien aujourd'hui que les cycles globaux, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle du fer, le cycle de l'eau, subissent des perturbations très importantes. Et notamment, certains cycles sont limités. On peut penser à l'extraction du phosphate, qui a mené certes à un doublement de ses flux, mais le phosphore est un minerai qui doit être extrait, et donc une ressource limitée finalement. Il y a de nombreuses actions perturbatrices qui sont d'origine humaine à l'ère de l'Anthropocène, ce qui altère le fonctionnement de la Terre de plusieurs manières. Donc perturbe l'équilibre. Donc on a ces dernières décennies eu trois alertes importantes, on le trouve dans la couche d'ozone, le changement climatique et l'érosion de la diversité. Il est difficile d'avoir une vue d'ensemble sur cet état de la planète, puisque chaque état est traité de façon isolée. Mais on peut se demander si on ne pourrait pas regrouper les principaux domaines perturbés par l'action humaine, comme le cycle de l'azote, le cycle du carbone, les menaces sur la biodiversité, etc., et les considérer ensemble, de manière à les surveiller. À surveiller les processus planétaires critiques, c'est-à-dire essayer de penser une globalité et donc la Terre comme ce tout, cet équilibre précaire en fait. Voilà. Et donc cette idée de surveiller comme ça des cycles qui risquent de finir puisque les ressources sont limitées conduit à l'idée de limite planétaire qui a été avancée par des figures majeures travaillant sur le changement global. Donc on peut citer Johan Rockström, Robert Costanza, Will Stephen, Paul Crutzen ou James Hansen. En 2009, dans un article intitulé « Limites planétaires, l'exploration d'un espace sûr pour l'humanité », c'est des spécialistes comme ça ont mené une analyse du risque pour 9 processus ou domaines du système Terre considérés comme critiques. Et donc là-dedans, il y a deux enjeux. Premièrement, déterminer à quel point les perturbations humaines peuvent déstabiliser le système Terre sur l'échelle planétaire. Et deuxièmement, déterminer les capacités de résilience de la planète. Donc la nécessité à laquelle il conclut est de rester prudent. C'est à nous de fixer les limites, ensemble de variables de contrôle déterminées par l'homme et mises à une distance sûre des niveaux dangereux ou du seuil global. Donc l'enjeu est de définir et de garantir un espace fonctionnel sûr pour l'humanité, basé sur les processus biophysiques intrinsèques qui régulent la stabilité du système Terre. Donc le but serait d'éviter le franchissement d'un seuil critique irréversible. Ça pose toute la question aujourd'hui sur la durabilité et le développement durable, dont le mot d'ordre est agir local, penser global. Le développement durable comme approche fondamentalement locale va donc, dans son volet environnemental, tendre à vouloir réduire les dégradations ou externalités locales. Ce que montre l'approche par les limites, c'est qu'une réduction des externalités locales ne peut pas être utile si en parallèle on ne pense pas le cumul global. Qui cependant, enfin, pour l'instant, est hors de contrôle sur de nombreux points. En somme, les limites planétaires sont un ensemble de frontières pour l'humanité si elle entend conserver les conditions de vie et la résilience qui sont caractéristiques de l'Holocène. Sachant qu'on est entré dans l'Anthropocène, ce qui pose un vrai problème, parce que c'est avec l'Holocène qu'on a pu développer les sociétés contemporaines, avec l'agriculture par exemple. C'est des conditions qui ont permis de telles émergences et sur lesquelles nos sociétés reposent. Et donc, il faut appliquer un principe de précaution face au résultat de l'interprétation systémique de la Terre comme système complexe, qui peut prédire un monde aux conditions potentiellement dangereuses, certainement instables, passablement inhospitaliers. En conclusion, donc, j'aimerais observer qu'on a vu que la Terre, comme les systèmes biologiques, est à la fois efficace et ne l'est pas. Elle l'est parce qu'elle existe toujours, depuis assez longtemps finalement, et non parce qu'elle n'est sûrement pas éternelle, au point de vue de ses ressources par exemple. Être sous-optimal, c'est ne pas négliger les valeurs de l'inefficacité et du chaos qui caractérise le mode d'être au monde de ces éléments. Il s'agit d'assimiler les puissances négatives au sein de son système pour devenir résilient face aux variations de son environnement. Si la tradition philosophique et scientifique a tendu à faire de la Terre l'exemple parfait du système capable d'autorégulation et d'homéostasie, l'ère de l'Anthropocène met à rude épreuve cette vertu en révélant des limites planétaires. Le désordre et le chaos qui risquent d'en résulter n'ont pas vraiment à voir avec ceux qui, en biologie, deviennent des instruments de la résilience à long terme, puisque cette fois-ci, ce sont des humains qui ont un impact considérable. Ce n'est pas du chaos et du désordre qui sont internes à la Terre, on va dire, et à son système. On voit comment la technosphère valorise au contraire la technosphère aujourd'hui valorise l'efficacité et l'optimalité comme but ultime, par-delà le hasard et le chaos. Et refuser de voir les défaillances et les risques au sein du système Terre pour affirmer que la Terre est un modèle d'optimalité, ainsi qu'on l'a fait pendant longtemps, risque d'avoir un impact considérable sur le long terme, notamment avec la question de l'épuisement des ressources. Et enfin, je voulais conclure ma conclusion sur les vertus de l'analogie organique. Donc on a depuis toujours essayé en fait de prendre le vivant et les organismes comme des modèles pour penser en effet l'optimalité et l'efficacité maximum. Et on l'a aussi fait en politique. C'est-à-dire que, par exemple, Platon, dans La République, quand il propose un modèle de la cité idéale, il fait une sorte d'analogie organique en expliquant que chaque individu appartient à une forme de classe sociale qui interagit avec les autres et crée une forme d'équilibre. Donc, par exemple, très, très grossièrement, on peut dire que ce qui relève du cerveau et de l'intellect, c'est le philosophe roi qui va gouverner la cité et les lois. Ce qui relève du thorax, c'est les soldats et les gardiens qui vont protéger. Et ce qui relève du bas-ventre, c'est le peuple. Et tout ça, ça ferait un super système qui serait très équilibré et avec tout le monde à sa place. Mais une critique qui a été faite par Gilbert Simondon, c'est que cette cité est une cité sans frottement, je cite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune adaptabilité à long terme. C'est la fin de l'invention, la fin des sciences, la fin de l'art. Il n'y a aucune capacité des individus à s'adapter. Donc la sous-optimalité permet de conserver l'organique comme paradigme en découvrant ses nouvelles vertus, les nouvelles vertus de l'inefficacité, du désordre, etc., pour comprendre un nouveau monde politique. Voilà. Je ne sais pas si il y a des questions.
Oui, je trouve qu'il faut pouvoir se donner ce temps-là. Hein. Alors bon, il y a ma gauche, un philosophe.
Mais je n'ai pas vocation à commenter.
On s'interroge ensemble.
Non, mais c'est très intéressant. Parce que, effectivement, je crois que l'hypothèse Gaïa, le tort de la réception de cette hypothèse, c'est d'avoir tout de suite compris ça comme un modèle d'ingénieur, de thermostat, d'autorégulation, etc. Mais par exemple, déjà, la tour, dans face à Gaïa, il montre. Tout l'intérêt de Lovelock, si on sort de ce schéma de thermostat, d'autorégulation, le premier intérêt, c'est de montrer que la vie crée ses conditions externes, crée des conditions externes. Par exemple, ce sera aussi la théorie de la création des niches. Hein. La vie ne s'adapte pas seulement, elle crée aussi des conditions externes avec lesquelles elle se régule. Et donc, effectivement, si on sort un peu de cette image d'ingénieur et d'autorégulation, d'équilibre, de thermostat de la Terre pour aller vers, au contraire, les processus complexes, hétérogènes, qui créent des conditions externes qui retentissent sur eux, on a un système Terre qui est beaucoup plus aléatoire, complexe et intéressant. Ça, c'est sûr, et je crois que c'est bien montré dans l'exposé. Maintenant, autre constat, effectivement, le modèle de l'équilibre a été le modèle dominant de la philosophie occidentale. Ça, il n'y a pas de... la période des doutes, et non seulement de la philosophie occidentale de la nature, mais de la philosophie occidentale de la morale, de la philosophie occidentale de la substance, de la philosophie, donc... Et c'est bien conclué par Simondon, parce qu'il y a justement chez Simondon cette idée profonde que c'est seulement l'hétérogénéité qui est inventive. Mm. C'est les relations hétérogènes qui sont... Le cristal, s'il n'y a pas un germe cristallin et une solution, et une relation entre le microscopique et le macroscopique, il n'y a pas de cristal. Donc il y a des processus d'invention qui sont toujours des processus d'hétérogénéité et non pas des processus d'homogénéité. Et ça rejoindra d'ailleurs ce que je dirais au début de l'après-midi sur Adam Sink et le champignon de la fin du monde.
C'était un petit point, mais c'est juste pour reformuler ce que j'aime bien dans ce que tu as présenté aussi, c'est l'idée qu'en fait, quand on est sous-optimal, on repousse les limites, les seuils, les points de bascule. En fait, c'est la construction de niche, c'est ça. Hein, c'est en fait, en construisant son habitat, en étant adapté à son habitat, finalement, on repousse les limites. Et inversement, quand on commence à forcer sur son environnement, là, du coup, on rapproche les limites et on était pourtant dans un état stable, mais notre état stable, on le transforme en état métastable. Alors qu'on est au même endroit. Hein. Et c'est juste parce qu'on a rapproché les limites et du coup, on peut sauter à un autre état, alors qu'avant, c'était très éloigné. Parce que voilà, on était tous. Et donc, la sous-optimalité, c'est quelque part ce filtre, ce tampon qui permet d'avoir toute cette marge de manœuvre avant qu'on fasse le point de bascule. Quoi. Mais si on devient optimal, on enlève le tampon. Donc, on est au ras des limites, quoi, et du point de bascule.